une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 27 mai 1968, les négociations entre le pouvoir, le patronat et les syndicats accouchent des accords de Grenelle. Cet accord doit mettre un terme à une contestation sociale de près de 2 mois, voire une autre histoire du 13 mai dernier. À compter du 13 mai 1968, les salariés se joignent aux étudiants. Les syndicats ouvriers et la Fédération de l'Éducation nationale déclenchent ce jour-là une grève générale et appellent à rejoindre les étudiants qui manifestent depuis le début du mois. La grève générale symbolique doit s'arrêter à cette seule journée. Ratée, elle se poursuit. Car à partir de la manifestation du 13 mai 1968, les événements se précipitent et prennent un tour politique et social radical. La grève générale se propage partout en France. Les événements de 68 commencent vraiment. Dès le 14, les ouvriers de Sud-Aviation débrayent en masse. Rapidement, les grèves s'étendent à tout le pays et la France se retrouve bientôt complètement paralysée. De Gaulle, qui qualifie dédaigneusement les événements de chien-lit, préfère laisser Georges Pompidou, Premier ministre, seul en première ligne. Mais la machine syndicale est bien trop forte, trop bien huilée et bien trop ancrée dans le monde ouvrier. Petit à petit, les syndicats reprennent la main et décident d'isoler les gauchistes étudiants. Ceux-ci rêvent pourtant d'une alliance spontanée avec les ouvriers. Peine perdue. À Billancourt, les ouvriers de Renault ferment les portes à leurs manifestations de soutien. Mais en sclérosant les mouvements grévistes, les syndicats ratent une occasion en or d'étendre le conflit à toutes les couches de salariés. Dans toute la France, les paroles se libèrent. Partout ont lieu des réunions ouvertes où se déroulent des débats enflammés. Au théâtre de l'Odéon à Paris, on peut entendre pêle-mêle des ouvriers, des étudiants, des syndicalistes, des artistes, des cadres et même de simples passants. Même le très consensuel festival du cinéma à Cannes ne peut échapper à ce nouvel élan de démocratie si désordonné. On provoque des assemblées générales, on vote des motions qui, sitôt publiées dans la presse ou sur des tracts, sont oubliées et remplacées par d'autres. D'abord plutôt en faveur des étudiants matraqués par les CRS, l'opinion publique commence à se lasser des grèves qui perturbent profondément la vie quotidienne et observe d'un œil de plus en plus méfiant et inquiet ce mouvement qui menace de mettre à bas les fondements de la société. En coulisses, le pouvoir entame des négociations secrètes avec les syndicats. Le 27 mai, les négociations entre le pouvoir, le patronat et les syndicats accouchent des accords de Grenelle. Georges Pompidou, Premier ministre.
D'abord sur le SMIG, salaire minimum garanti, qui sera porté à 3 francs au 1er juin 1968. Ensuite, sur les salaires réels étant augmentés au 1er juin 1968 de 7%, pourcentage porté au 1er octobre à 10%, également a été accepté un texte concernant la réduction de la durée du travail. Le problème d'un assouplissement de l'âge de la retraite a été posé par plusieurs syndicats et le CNPF en a accepté l'examen. En ce qui concerne la vieillesse, le gouvernement a accepté d'augmenter au 1er octobre prochain l'allocation minimum versée aux personnes âgées.
Mais là encore, les syndicats sont dépassés par leur base. Les ouvriers se méfient et refusent en bloc les accords. La grève continue. Le mouvement devient de plus en plus politique. La gauche modérée, représentée par Mendès France ou Mitterrand, commence à placer ses billes pour une alternance au pouvoir gaulliste et organise un grand meeting populaire à Charletti. Le 29 mai, à la stupeur générale, le général de Gaulle disparaît. En réalité, il est parti en secret pour Baden-Baden en Allemagne, consulter le fidèle général Massu. Pourquoi ? L'absence soudaine du général plonge le pays dans l'angoisse et la confusion. On semble au bord d'un basculement politique, dramatique et irréversible. De Gaulle a-t-il voulu jouer sur les peurs des Français ? A-t-il eu une vraie faiblesse ? A-t-il fait un réel calcul politique ? La suite va en tout cas lui donner raison. Le 30 mai, de retour à Paris, il accepte la proposition de Pompidou et déclare la dissolution de l'Assemblée nationale. L'après-midi même, une grande manifestation de soutien est organisée sur les Champs-Élysées par les gaullistes qui estiment la participation populaire à plus d'1 million de personnes. Dans un discours enflammé depuis l'Élysée, De Gaulle dénonce un mouvement d'intimidation et d'intoxication sciemment organisé en appel à l'expression souveraine du peuple français lors des élections législatives anticipées et menace, pour garantir l'intégrité de la République, de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution, lui accordant les pleins pouvoirs si les événements l'y contraignent. Le Parti communiste voit dans les élections une aubaine pour renforcer ses positions politiques et manœuvre en sous-main pour faire cesser les grèves. L'essence revient dans les stations-service et peu à peu, les piquets sont levés à l'entrée des usines, non sans quelques échauffourées très violentes avec les CRS venus chasser les derniers récalcitrants comme à Flins ou à Sochaux. Le 12 juin, plusieurs organisations d'extrême gauche sont dissoutes. Du 14 au 16, la police fait évacuer sans heurts l'Odéon et la Sorbonne. Les principaux leaders du mouvement étudiant sont fermement marqués à la culotte. Daniel Cohn-Bendit, en l'occurrence, est interdit de séjour sur le territoire et exilé en Allemagne. Enfin, alors que les dernières grèves s'achèvent, une grande purge s'abat sur tous les journalistes de l'ORTF, soupçonnés de sympathie avec l'extrême gauche. Les 23 et 30 juin, les élections législatives voient un véritable raz-de-marée pour les gaullistes qui obtiennent une majorité absolue sans précédent à l'Assemblée nationale. Dans les urnes, les Français ont urgemment voulu mettre fin à la crise. Mais contrairement à ce que De Gaulle a affirmé dans son discours du 30 mai, le mouvement de mai 68 n'a pas été prémédité en sous-main par des groupuscules d'extrême gauche organisés pour provoquer une révolution contre le pouvoir gaulliste et le renversement de la République. En fait, cette explosion brutale et spontanée, provoquée à la base par une contestation étudiante devenue rapidement incontrôlable et récupérée tant bien que mal par les syndicats et les politiques de gauche, a été le révélateur d'une aspiration libertaire profonde, mais finalement désordonnée et parfois même utopique. Pourtant, souvent qualifiée de révolution manquée, la contestation de mai 68 aura des conséquences économiques, politiques mais surtout culturelles et morales très profondes et très durables, qui marquent encore aujourd'hui de leur empreinte la société française, des plus hautes institutions de l'État jusqu'à la cellule familiale, en passant par toutes les couches socio-culturelles du pays. Certains pensent que la situation actuelle mériterait peut-être un nouveau mai 68 sur le plan politique, économique, culturel et sûrement écologique. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire.